Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Batteur sans limite. Aujourd'hui, je suis avec Morgane Berthette. Salut Morgane.
Salut.
Et on va parler de double pédale, de technique de double pédale, de comment avoir un jeu groovy en faisant du métal et comment rejoindre un groupe de métal, tout particulièrement quand on a un batteur en France. Alors, t'es batteur dans pas mal de groupes. Moi, je t'ai découvert avec les vidéos pédagogiques que tu faisais avec Shob, je crois, le batteur, ouais. Le bassiste de Hetz. Et c'était, il me semble, grâce au Batteur Magazine, je crois, de mémoire. Et donc, à l'époque, tu jouais avec Hetz. Mais est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Alors, Morgane Berthet, batteur français. En ce moment, moi, je suis batteur de Miraf, qui est un groupe tunisien. Je suis batteur de Kadinja, sur Paris, je suis batteur de Frontal vers chez moi, donc près de Lyon, et je suis batteur session pour Clone, et batteur pour Stéphane Forté aussi sur son projet solo.
D'accord, Stéphane Forté, le guitariste de d'Adagio, c'est bien ça? Ouais, ok, d'accord. D'accord, et comment est-ce que t'es arrivé là? Quelle est ta formation? Comment est-ce que t'as commencé la batterie?
Alors moi j'ai commencé la batterie à 3 ans, donc je suis assez jeune parce que...
ouais.
Apparemment, ça l'a fait, donc de mémoire, je sais pas trop ce que je foutais à 3 ans, ça devait pas être la folie, mais ça me plaisait, donc j'ai continué, donc j'ai pris une quinzaine d'années de cours vers chez moi. Après, j'ai fait la MBI à 20 ans ou 21 ans, et puis derrière, j'ai été contacté par des groupes, et des groupes de plus en plus gros, du coup, ça s'est fait plutôt facilement, en fait.
D'accord, ouais, et t'as commencé à 3 ans, t'étais dans un environnement, tes parents sont musiciens?
Ils sont, ouais, c'est pas leur boulot, c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait, c'est pas ce qu'ils font à plein temps, mais oui, c'est des fans de musique, c'est des musiciens, du coup, j'ai toujours été là-dedans, et pareil, ça aurait été facile, parce qu'ils m'ont toujours poussé là-dedans.
Ouais. Ah super, ouais, t'avais le soutien déjà à 3 ans, c'est, ouais, c'est pas mal, difficile de faire mieux, du coup.
Ouais, ouais.
Ok. Et au MAI, donc au MAI de Nancy, hein, c'est bien ça?
Ah.
Ouais. Et est-ce que au MAI, tu as appris la double pédale? J'aimerais m'orienter un petit peu plus vers la double, le travail de la double. Et je me demandais si dans ce type d'école, est-ce qu'il y a des professeurs qui sont spécialisés ou peut-être des masterclass, des profs qui viennent? Ou est-ce que t'as eu est-ce que t'as appris la double là-bas en fait?
Non, pas du tout. Moi, j'ai appris, je devais avoir 11 ou 12 ans, parce que mon prof de l'époque était ultra polyvalent et ça faisait partie de ses... Donc, c'était pas du tout un batteur de métal, mais bien polyvalent. Et du coup, c'était quand même un truc qui voulait me faire travailler et que lui aussi avait travaillé. Donc, pas du tout au niveau où on peut le pousser dans le métal, mais néanmoins, il m'a appris quand même les bases pour ça. Et non, à la MAI, il n'y a pas de cours de pédale, il n'y a pas du tout ça. J'ai jamais ramené ma double pédale à la MAI en cours, il n'y en a pas sur place. Et il n'y a pas forcément de prof spécialisé là-dedans. Il y a de temps en temps des intervenants spécialisés dans le métal, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas réellement de cours de double pédale.
D'accord. Et alors, le métal, justement, comment est-ce que c'est vu dans ce type d'école?
Alors c'est une école très très rock et elle a un département de jazz à côté, du coup on se mélange pas trop avec les jazzeux, donc c'est...
D'accord.
Je sais pas si c'est cool ou pas cool, mais l'école, moi là où j'étais, le département où on est, c'est quand même très très rock, donc il y a absolument aucun souci là-dessus, t'as plus de chances de faire tâche si t'aimes pas le rock et le métal que l'inverse là pour le coup.
Ouais, d'accord. Et comment est-ce que t'es entré au MAI? Il y a une sélection particulière?
Bah ouais, il y a une petite sélection. Alors moi, ça s'est fait via Eric Thiébon à son école de batterie, donc il est vers Grenoble, lui. Mais après, il y a des sélections, je sais pas trop où ça se fait, sinon, soit à la MAI, soit... Il doit y avoir des profs qui, en France, un peu partout, qui ont le droit de faire passer ça. Et ouais, c'est un petit test, ça peut aller de 20 minutes à 1 heure, où tu testes tes connaissances sur ta lecture, ta technique un petit peu, et ce que tu sais faire dans 2-3 styles. Mais rien de bien violent quand même.
D'accord, ouais, ça, c'était pareil, ça a été facile pour toi de rentrer?
Bah, je pense que de toute façon, plus ça va, plus ils sont moins regardants. Je pense qu'il y a 25 ans au CMCN, à l'époque, comme ça s'appelait, ça ne devait pas être la même le niveau d'entrée. Là maintenant, il est un peu plus light, ouais.
Ok. Et aujourd'hui, tu prends encore des cours? T'as un professeur aujourd'hui?
Non, non, j'en prends pas. J'adore prendre encore des cours, mais déjà, je n'ai pas forcément le temps de bien m'y tenir et je suis une vraie feignasse. Donc voilà,
tout est... Ok, d'accord.
J'aimerais bien, ouais, ça serait super.
Ok. Bah, c'est marrant que tu dises ça, que tu dises que je suis une vraie feignasse parce que tu as commencé très très jeune. Mais le niveau que tu as aujourd'hui, on l'a pas en posant son cul devant la télé, quoi.
Non, c'est sûr, j'ai dû bosser quand même un petit peu, mais c'est vrai que je suis pas un foudre de guerre. Genre les 6 heures de batterie par jour, c'est pas quelque chose que j'ai fait. J'ai beaucoup bossé pendant la MAI parce qu'on était cadré et que de toute façon, il n'y a que ça à faire. Et que de toute façon, si je suis pas cadré, je ne fous rien, clairement. Mais moi, j'ai même pas de batterie chez moi, je peux même pas travailler. Donc, tous les groupes avec qui je bosse, je peux pas travailler. Chez moi, ou alors il faut que je loue une salle, ou voilà, faut que je me déplace et je le fais pas trop. Donc, c'est vrai que je travaille pas beaucoup. Pareil, moins que ce que j'aimerais, mais je pense qu'il y a des trucs qui ont été acquis quand j'étais plus jeune. J'ai eu le temps de travailler pas mal de bases, mais ouais, je suis quand même pas le genre de musicien à travailler tous les jours.
D'accord. Tiens, c'est marrant ça, je m'attendais pas à ça. Et ouais. Comment alors les groupes avec lesquels tu joues en ce moment, tu disais que tu peux pas travailler vraiment à la maison, mais bah comment tu fais alors?
Eh ben j'ai pris le coup là depuis dès la première fois avec AFC et compagnie, j'ai pris le coup de forcément écrire toutes les partitions. Donc déjà ça t'oblige à écouter quand même le morceau beaucoup de fois, enfin les morceaux beaucoup de fois, de les décortiquer déjà. Et ben, pour ma part, moi quand j'ai fait ça, j'ai déjà 90% du morceau, parce que si j'ai compris ce que je devais jouer, je vais arriver à le jouer. Après il y a le côté mémoire, il y a le côté tout ça, mais si la technique s'est réglée, il reste pour moi plus grand chose à faire après en répète. Donc après ça marche plus ou moins bien suivant le niveau du groupe. Quoi. Les derniers en date, là, genre Kalinja, ça demande un travail qui est tellement monstrueux avant et après que là ouais, je suis obligé quand même de m'enfermer 3-4 jours pour bosser les morceaux. Mais ouais, j'ai appris à bosser comme ça, j'ai pas le choix, j'ai pas de local chez moi. Donc voilà.
D'accord, oui, parce que les alors t'as fait le buzz dernièrement avec les vidéos de Kadinja là, des petits extraits de studio. Ah. Et c'est assez monstrueux ce que tu fais, c'est assez énorme. Alors avant d'être en studio, tu passes 3-4 jours là à justement t'enfermer et à bosser
voire très peu, parce que là moi, j'ai déboulé en studio pour Kadinja, les morceaux je les connais pas vraiment, j'ai dégrossi ce que j'avais à dégrossir, mais de toute façon 3 jours, parce que je suis obligé de louer une salle pour bosser, je loue des tranches de 4 heures, parce que ça coûte la peau du cul. Et donc quand je te dis 3 jours, c'est 3 fois 4 heures, je peux pas bosser bien plus. Et du coup je déboule en studio pour enregistrer l'album, je bosse en même temps que j'enregistre. J'aime bien le côté impro aussi, même là, je suis pas un batteur qui aime et qui sait reproduire 10 000 fois le même truc, ça m'intéresse pas de bosser comme ça, donc j'aime bien le côté impro et prise de risque. Et du coup en studio, ben là, les vidéos elles sont sorties comme ça, j'aurais pu en faire 10 à la suite du même passage, ça aurait pas sonné pareil, ça aurait pas été les mêmes plans. J'aime bien bosser comme ça.
Ouais, je comprends l'idée. D'ailleurs, je sais pas qui te filme pendant les vidéos, mais la première que t'as publiée où tu balances un gros break, tu entres avec un gros break et la personne qui est derrière la caméra te dit ouais c'est bien ça, genre comme si tu l'avais sorti nulle part quoi, comme si c'était improvisé, tu cherchais à le faire.
Ah bah c'est ça. Je suis en train de, sur le début de la vidéo, on l'a laissé. Je suis en train de chercher mon break et j'arrête. Je fais pas forcément le même à chaque fois et au bout d'un moment il lance la vidéo et je fais pas du tout celui que j'étais en train de bosser juste avant parce que j'aime bien cette énergie et ce truc là de tu sais pas trop où tu vas et puis on verra ce que ça fait et c'est souvent là que les meilleurs trucs sortent, je trouve. Donc ouais. c'est là aussi que tu peux vraiment te glander aussi, mais là on est en studio, c'est pas bon, on refait, y a pas de souci. Mais ouais, j'aime bien cette pression de bah, c'est pas parfait ce que t'as bossé, tu sais toujours pas ce que tu vas faire au moment où il balance le clic.
D'accord, ok. Et donc alors aujourd'hui, tu travailles plus vraiment la technique apparemment, mais comment est-ce que t'as commencé à travailler la double pédale? Donc ce professeur que t'avais à 11 ans qui a commencé à te faire travailler la double, comment est-ce que t'as travaillé la double?
Bah, moi, il me faisait bosser des trucs genre Greg Bissonnette ou Wakel qui utilisent un peu la double, mais pas des niveaux de. Enfin, pas des vitesses surtout, comme on peut trouver dans le métal. Donc, c'était vraiment plus pour l'indépendance, pour utiliser ce pied gauche qui fait pas grand-chose d'habitude, à part s'occuper de temps en temps du charlet. Donc, c'était plus. Mon approche, c'était plus celle-là, quoi. Après, moi, derrière, j'étais fan à l'époque de je sais pas pourquoi, de Pantera, de Slipknot, de trucs comme ça. Après, j'ai connu Meshuggah assez jeune aussi, et ça m'a traumatisé. J'ai commencé à bosser ça et j'ai bossé surtout ça dans la double, plus ces groupes de notes, ces trucs saccadés, plus que de la vitesse. On est forcément bossé de la vitesse, mais pas vraiment, de débit en continu sur 2 minutes pour essayer d'atteindre des vitesses folles. C'est vrai que ça n'a pas été mon boulot, quoi. Plus tard, j'ai bossé. À chaque fois qu'un groupe me demandait de bosser pour lui, je travaillais en fonction. S'il fallait que j'atteigne telle vitesse, ben, je m'y remettais un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas d'intérêt là aujourd'hui à savoir jouer de la double à 250 pendant 2 minutes, quoi. Je vais pas bosser comme ça, donc c'est pas mon délire. Par contre, justement, là, sur la deuxième vidéo de Kadinja qu'on a balancée, ça, c'est tout à fait le type de truc que j'aime bosser. Donc, la vitesse en continu, elle n'existe pas. Il n'y a pas de truc ultra rapide en continu. Par contre, c'est ultra saccadé. C'est vraiment une autre approche de la double. Et moi, j'ai surtout bossé ça.
Ouais. C'est vrai, ce passage, il est vraiment. Il y a des sextolés, double croche, croche. Enfin, je crois qu'il y a tout ça, qu'il y a une mesure où on retrouve plein de rythmes différents.
Ah,
Et
là, c'est très
c'est.
chaud.
Ouais, c'est un truc de malade là. Et alors, comment tu travailles ce genre de choses? On peut prendre du Meshuggah et se dire je travaille sur du Meshuggah ou ce genre de choses. Est-ce que tu as des exercices spécifiques que tu travailles pour ça?
Bah là aujourd'hui, j'ai plus d'exercice. Mon premier truc, c'est comprendre le riff. Et après, c'est trouver le doigté qui m'irait le mieux pour jouer ce genre de choses, quoi. Après, jouer du Meshuggah, tous ces trucs-là, là, c'est. Pour la double, c'est super. C'est super pour la double, c'est super pour la tronche, parce que c'est blindé de mesures bizarres, de cellules qui se décalent. Ça, pour ça, c'est vraiment super. Je passe plus de temps à choisir mon doigté de pied, quoi, plus qu'autre chose. Je crois que c'est vraiment le truc principal. Après, le deuxième, c'est juste de le mettre en boîte et que ça soit vraiment, vraiment en place. Et là, c'est encore autre chose. Là, on atteint tellement la limite je pense, de ce que je peux faire en termes de vitesse là-dessus. Alors ça, là, en concert, je crois que c'est nos deuxième ou troisième morceau de set. Là, si t'es pas chaud, là, c'est fou.
Ouais, c'est le genre de truc où t'aurais besoin d'être bien chaud, de t'être bien entraîné avant.
Là, je le fais pas non plus, hein. Je monte sur scène, je m'échauffe jamais, mais des fois, tu regrettes.
Ouais. D'accord.
Ah ouais, c'est un truc qui peut pas, tu peux pas le tirer en arrière, tu peux pas. Faut vraiment vraiment le jouer en place, parce que autant quand c'est en place c'est classe, autant quand c'est pas en place c'est juste nul, ça fait plan raté. J'en suis pas au point où je vais me vautrer tellement que ça va niquer le morceau, mais ouais, ça demande de toute façon, ce groupe là il demande de s'entraîner tout le temps.
Ouais, là ça, j'imagine. Et les autres musiciens, tu sais si eux ils ont un rituel particulier, qu'ils ont un entraînement poussé ou pour jouer ce genre de choses?
Bah, en ce qui concerne le guitariste qui compose, là, Pierre Danel, ouais, lui il bosse, c'est déjà un peu plus un bosseur que moi, mais c'est pareil, on est quand même pas des machines de boulot là tous. Mais par contre, ouais, les guitaristes s'échauffent avant, eux c'est vraiment, c'est minutieux. S'il fait froid, si ça change de comment ils sont chez eux pour bosser, ouais, c'est sûr qu'il faut qu'ils s'échauffent un minimum. Ouais. Tout ça, ouais, selon les plans là dans ce groupe, il y a quand même des moments où on est à notre limite pour la vitesse ou pour le physique, pour n'importe quoi. C'est pareil, j'ai une manière de jouer qui fait que peu importe si c'est rapide, j'aime bien quand même rentrer dedans, quoi, physiquement.
Ouais.
Et c'est ultra physique, ce genre de plan. Donc ça n'a rien à voir, on pourrait se dire que c'est moins physique, ouais, qu'un tapis de double à 250, hein, mais
C'est ouais, ça reste discutable le parce que dans l'idée où quand on fait un gros blast, quand on fait un tapis de double, on se dit bon bah c'est droite gauche quoi. Faut tenir
Ah,
l'endurance et tout, mais tu réfléchis pas au doigté ou
Ah bah, tu réfléchis pas au doigté, c'est une position de pied, quoi. Vu que t'as qu'un débit, c'est qu'une position. Là, vu que t'arrêtes pas de mélanger les débits, c'est rare que tu gardes la même position de pied. Donc, c'est un peu l'enfer pour ça.
D'accord, ouais. Alors pour les auditeurs, je partagerai les vidéos que tu as mises sur Facebook, hein, pour qu'ils aient une idée de
Ouais.
quoi on parle, pour qu'on voit un peu ce gros break et ensuite ce gros riff qui, avec tous ces débits différents, tous ces rythmes différents, c'est assez balèze. Et alors justement, dans ces rythmes qui sont quand même très très compliqués, comment est-ce que tu fais pour garder, pour rechercher à avoir un jeu groovy? Malgré le fait qu'il y ait énormément de notes qui soient jouées, que ce soit des rythmes très cassés, etc. Comment est-ce que tu fais pour garder un jeu groovy là-dedans?
Je sais pas, j'ai toujours enfin, tout ce que je fais, j'essaye de le faire groover, peu importe si c'est extrême ou si c'est pas extrême. Il y a tout le travail de ghost note, il y a tout le travail de. Bah, déjà, faut être à l'aise. Si t'es pas à l'aise avec si t'en es toujours à te prendre la tête avec la technique, c'est compliqué déjà d'essayer de le faire groover. Je pourrais pas trop répondre, c'est des années à te poser et à jouer pour faire vraiment sonner le truc. C'est le truc qu'on apprend quand t'es prof aux élèves, c'est super, t'arrives à jouer ton truc techniquement, mais entre le moment où tu le rentres techniquement et le moment où tu le fais sonner vraiment comme tu veux, où tu peux modifier ce que tu veux en temps réel, en t'enregistrant, enfin en jouant, là ça prend du temps, quoi. Ça prend des années pour faire ça. Après j'ai pas de méthode pour faire groover le truc, et puis ça reste un truc ultra subjectif, quoi. Là toi tu me dis que là-dessus ça groove, peut-être que d'autres batteurs ils vont te dire bon, là, ça groove pas.
Ouais, tout à fait. Et je pense que tu disais que tu recherchais le doigté, et je pense que le fait d'être détendu, le fait d'être vraiment à l'aise avec ce qu'on fait est absolument fondamental pour le faire
Ah
sonner.
ouais, ça c'est obligé, ouais.
Ouais, carrément. D'où est la recherche de doigté aussi. D'accord, d'accord,
Le doigté,
d'accord.
ouais, moi ça me prend vachement de temps, je réfléchis vachement, j'ai pas du tout de méthode. J'ai des batteurs, si tu te prends des débits de double croche constamment, première, troisième double, ça va être leur pied droit, et deuxième, quatrième, ça va être leur pied gauche, c'est absolument pas mais du tout ma méthode. Je fais pas du tout ça, des fois je double un pied parce que je trouve que ça tourne mieux et qu'il faut pas que ces deux coups soient la même force, et c'est ça qui fait que c'est un peu plus humain. C'est vrai que j'aime bien humaniser un petit peu le jeu métal, mais comme ça se fait de plus en plus, quoi. Et surtout avec cette musique là, tout ce qui est djent et compagnie, là, je trouve que c'est pas mal. Déjà quand on n'a pas de cul, on n'a pas des sons ultra naturels en métal, voire pas naturels du tout, donc qu'au moins le jeu vibre un peu, quoi.
D'accord. Et alors, ouais, tu disais, oui, la logique voudrait que ce soit bah, droite gauche, quoi, hein, qu'on continue comme ça. Et ouais, toi, t'as tendance à doubler des coups, par exemple.
Ah ouais, moi je m'en fous. Tout ce que j'essaye, et c'est pas vrai tout le temps, mais tout ce que j'essaye, c'est que chaque début de petite phrase, de petit plan de double commence par un pied droit, parce que c'est mon pied fort, forcément. Mais après, s'il faut que je me retourne, que je double un pied gauche, que je double un pied droit, j'hésite pas à le faire, quoi. J'hésite pas du tout à le faire si je me sens plus à l'aise, si je trouve que ça tourne mieux comme ça, y a pas de souci.
Ouais. Encore une fois, tu recherches ce qui te permet d'être le plus à l'aise possible, de le faire sonner le mieux possible, quoi, hein.
Ah bah ouais, voilà, bosser une technique, j'y crois pas trop à ce truc de, y a telle règle, ouais, en première, troisième double, c'est pied droit, et deuxième, quatrième, c'est pied gauche, ouais, bah non, ça marche pas, ça sonne pas tout le temps, et c'est con de se bloquer comme ça, c'est certainement une méthode qui doit marcher de temps en temps, mais je suis plus d'avis de faites comme vous pouvez, quand vous l'aurez fait 10 000 fois, ça va marcher.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des principes de base. Le principe de base, c'est d'être détendu, de kiffer ce que tu fais et que ça fonctionne. Et après, dans ces principes, t'as des méthodes différentes. Il y en a qui vont utiliser, qui vont faire droite gauche, et puis d'autres qui vont vouloir doubler ou quoi. Ça, c'est. Et alors, t'as travaillé avec beaucoup de groupes français. Ça fait pas mal d'années que t'es avec pas mal de groupes français. Et en ce moment, tu es avec Mirat, qui est un groupe tunisien, Kadinja, qui est français, et Frontal, qui est français aussi.
C'est ça.
Et est-ce que tu peux nous présenter ces groupes?
Eh ben, je vais vous les présenter et puis vous dire comment je les ai intégrés, peut-être. Mais Miras, alors à savoir que je vais avoir du mal à répondre à la question de comment rejoindre un groupe français, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai jamais démarché moi perso pour un groupe. J'ai jamais envoyé un mail ou passé un coup de téléphone pour dire s'il vous plaît, prenez-moi, j'ai envie de bosser avec vous. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être toujours ou au bon endroit, au bon moment, ou de connaître les gens pour me placer sur des plans aussi. Ouais, le plus vieux que j'ai intégré, avec qui je joue encore, c'est doit être Miras, là. Et ça s'est fait bêtement parce que un des guitaristes était à la MAI. Et il y a de ça bien plus longtemps, avant.
Ouais.
Et ils m'ont contacté pour faire une tournée. À la base, je ne devais pas rester. Et puis ça s'est bien passé. Donc je suis resté. Mais pareil, ça s'est fait ultra, ultra, pas simplement. En fait, j'ai toujours eu un groupe qui m'en a apporté un autre. J'ai commencé, je suis sorti de la MAI, j'avais que Frontal. On ne faisait pas grand chose, c'est vraiment un groupe pour ça. On se marre entre potes, on ne s'est pas mis de défis particuliers. Bref, je suis sorti de la NAI, il y a un groupe de hardcore qui est Highless sur Montpellier qui m'a appelé. Donc ils sont quand même à 350 bornes de chez moi. À l'époque, je faisais rien, je filais des cours, donc je les tentais. Donc j'y suis allé toutes les semaines pour les répéter, pour les bosser avec eux. Ce groupe-là m'a fait croiser Lophophora et par le biais du batteur de Lophophora, j'ai pu jouer avec S. Derrière S, j'ai pu jouer avec Head Charger. Derrière Head Charger, je sais plus ce que j'ai encore trop fait. Mais à chaque fois, c'est le fait de bosser avec un groupe qui m'en a amené un autre.
Ah ouais, excellent. Donc oui, c'est toujours... alors juste, le premier qui t'ont appelé, c'était Highless, tu disais, quand tu donnais des cours. Ouais. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on engage ça? Comment le premier t'a appelé? Pourquoi ils t'ont appelé? Comment est-ce qu'ils te connaissaient, en fait?
Alors, ils m'ont appelé pour deux raisons. C'est qu'à l'époque, j'avais posté une vidéo sur MySpace de Frontal, donc c'était le début des réseaux sociaux et tout ça. Et j'avais foutu une vidéo parce qu'il y avait un onglet vidéo, une vidéo.
Ouais.
Et ça leur avait bien plu, ils avaient même été pas mal impressionnés. Donc pour eux, ils m'appelaient, c'était où je mentais sur la vidéo, ou alors ça allait vraiment, vraiment le faire. Mais moi, j'avais jamais eu à bosser avec une deadline. Je crois qu'ils m'ont appelé, c'était 10 jours avant le premier concert. Et je crois que le troisième concert, on ouvrait pour Manson au Zénith de Montpellier, donc c'était stress direct. Donc, j'avais jamais été confronté à ce type de travail où, bah ouais, vas-y, t'as 10 jours, t'as pas beaucoup de morceaux à bosser, genre 8 ou 9. Mais bon, t'as 10 jours pour les bosser, pour te ramener à Montpellier et voir si ça le fait ou si ça le fait pas. Donc, toujours même config, pas de batterie pour bosser chez moi, rien. Donc j'y suis allé, déjà je me suis bougé, ce qui est déjà... Je pense en soi, enfin, faut que les gens ils prennent conscience, les musiciens qui veulent se lancer, que le groupe qui va les faire vivre ou qui va les emmener loin, il n'est pas à 20 km dans la même ville.
Ouais.
Moi j'ai décidé de me bouger, de faire 350 bornes toutes les semaines, ce qui fait beaucoup, ce qui fait perdre du temps, de l'argent. Mais si j'avais pas ça, j'aurais pas eu le reste derrière. Donc j'en entends plein hein, qui me disent ouais ben là le groupe il a 60 km, c'est quand même chiant. Ça veut dire, je sais que c'est cher, les séances, je sais que machin, mais après, il faut savoir ce que vous voulez faire. Moi, j'ai toujours voulu faire de la musique et devenir professionnel là-dedans. Donc, à un moment, il faut se bouger. Donc, je me suis bougé là-bas et ça l'a fait, ils m'ont gardé. Et voilà, simplement, encore une fois.
D'accord, ouais, grâce à une vidéo, et je pense à. Alors, il y a deux choses. Kevin Paradis, que j'ai interviewé il y a quelques semaines, lui, il s'est pas mal fait contacter de par sa chaîne YouTube parce qu'il fait beaucoup de drum covers et elles sont excellentes, elles sont vraiment très bonnes et surtout il fait des drum covers ultra rapidement, c'est-à-dire qu'il y a par exemple il l'a fait avec Nile dernièrement. Il y a Nile qui poste un truc et il poste une drum cover dans les 24 heures. Les groupes du coup peuvent tout de suite savoir que il est capable de travailler ultra rapidement quoi.
Il peut travailler ultra rapidement parce qu'il a la technique suffisante pour déjà pas avoir à bosser. Je pense que tu as tout ce qu'il a à faire quand ça arrive. Lui, c'est écouter le morceau, retenir la structure et c'est parti.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et je pense aussi à Stéphane Chamberlain qui a eu des cours avec Dom Famularo. Et Stéphane Chamberlain, il vivait à Québec et Dom Famularo à New York. Et du coup, ça, je sais plus combien de bornes ça fait, mais ça doit faire quelque chose comme 800 km, je crois, quelque chose comme ça. Et il le faisait une fois par mois. Il allait à New York pour être avec Dom Famularo et pour travailler avec lui. Et maintenant, il a monté une école Wisdom, donc une école qui fait partie du réseau de celle de Dom Familaro. Donc encore une fois, il a été prêt à se bouger, à faire toute cette distance, etc. Et il serait certainement pas qui il est aujourd'hui s'il n'était pas passé voir Dom Familaro à New York, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a des concessions à faire.
Les concessions, quand les musiciens sont gigantesques, et je crois que je les mesure même pas. Donc, quand je suis rentré dans LS, j'avais 22 ans, là j'en ai 30. Et le nombre de concessions que tu dois faire dans ta vie, elles sont, c'est gigantesque.
Ouais, mais ça vaut le coup si c'est ce qu'on veut vivre, ouais.
Après, c'est, moi, j'ai jamais voulu avoir mon petit boulot, je pourrais pas, mais avoir mon petit boulot pépère, rentrer tous les soirs et machin, ça, je peux pas le faire. J'aurais eu moins de concessions à faire, d'un côté, mais celle-là, elle aurait été énorme de concessions, de faire pareil tous les jours, de pas vivre de ma passion, ça aurait été impossible. C'est pas facile tous les jours non plus. Il y a effectivement plein de concessions, mais bon, c'est comme ça.
Et alors justement, en étant batteur dans trois groupes, quels sont les challenges que tu as en ce moment?
Les challenges, là, c'est plus au niveau de l'agenda. C'est plus comment je vais pas planter un groupe parce que j'ai une autre date avec un autre. Ça, c'est très très dur. Et je suis toujours passé entre les mailles du filet. J'arrive bien à m'organiser. Déjà, je t'ai informé tous mes groupes de la moindre date qui se rajoute pour pas qu'on ait une mauvaise surprise au dernier moment, mais c'est beaucoup d'orga chez moi à m'organiser. Bah ouais, regarder le temps que ça va me prendre d'aller d'un point A à un point B, avec quel moyen de locomotion, parce que je suis batteur, ça c'est nul à chier, mais quand tu dois emmener ta batterie partout, bah c'est ou la voiture ou tu te fais prêter une batterie sur une date, enfin peu importe. Donc c'est vachement de temps à m'organiser là-dessus sur mes trajets en fait.
Et du coup, t'es sponsorisé par Tama, entre autres. Ouais. Et est-ce que eux, ils peuvent, est-ce que ça fait partie de leur rôle de, par exemple, tu fais une date dans un autre pays et le Tama de cet autre pays te prépare une batterie sur place ou...
Alors, il faut que ça soit, le problème, c'est qu'il faut que ça se passe il faut que ça soit demandé bien avant. Après, j'ai pas de problème avec ça parce que les groupes, genre, avec Miras, quand on part à l'étranger, le matos qu'on nous prête sur place, il est toujours, de qualité, il n'y a pas de souci. Après, Tama, ils ne peuvent pas faire ça si tu as juste un enregistrement studio ou si tu as juste une répète à faire, je ne sais pas où, ils ne peuvent pas le faire. Donc, je me déplace pas mal en voiture. Surtout que j'essaye de ne pas perdre de temps ou pas de faire perdre de l'argent au groupe qui me défraie. J'essaie de faire des circuits où j'arrive à tout enchaîner. Quoi. Parce que moi, je suis près de Lyon, quand je dois aller bosser avec Claude qui est à Poitiers ou avec Kate déjà à Paris. Tu fais juste un aller-retour pour une date, c'est la merde. Donc on essaye toujours de voir ce qu'on peut faire une fois que je suis sur place. Donc avec Adinja, j'essaie toujours de faire du studio en même temps, de trouver des plans comme ça pour rentabiliser au niveau de l'argent et au niveau du temps mes déplacements.
Ok. Et pour Clone, tu es aussi tu es batteur de session pour Clone, mais tu fais pas les concerts avec eux.
Je dis, je fais tous les concerts, mais je fais pas les albums.
Ah d'accord, ok. Donc c'est toi sur scène, mais c'est pas toi qui enregistre les albums.
C'est ça.
Ok. Et comment on se retrouve dans cette situation de ne pas être le batteur qui fait tout, mais de faire une partie?
Moi j'ai pas de soucis avec ça, je suis musicien de session, ça a pris la moitié des dates que j'ai dû faire dans ma vie, ça doit être en session de toute façon. Et j'ai pas de problème avec ça, c'est plus comment l'expliquer aux gens des fois que dans un groupe, bah, t'es fait bientôt sans date, là, avec Claude, comme c'est le cas. Mais que t'es pas le batteur attitré, donc t'expliques que le batteur il a d'autres trucs à faire à côté, mais qu'on tient tous à ce qu'il continue de faire les albums. Moi, pour ce qui est de Claude, j'adore bosser parce que Florent Marcadel, le batteur actuel, enregistre. Donc j'ai aucun souci avec ça. Pour moi, j'aime bien bosser les trucs d'autres batteurs. Autant je bosse pas chez moi, je bosse pas de technique et tout ça, mais je pense que j'ai vachement progressé aussi en bossant plein de parties de batteurs et de bons batteurs comme lui. Et ça m'a bien fait progresser. Mais ouais, moi j'ai pas de problème avec ça.
Bah oui, et lui il s'occupe de composer, de faire toutes les compos. Et de les enregistrer, et après ils te passent les partitions, tu les travailles et t'es prêt pour les tourner.
Ben, ils me passent pas les partitions, c'est moi qui me fais mes partitions, toujours pareil, et puis ouais, c'est parti.
Ah, ok. Et c'est quelque chose de courant ça, d'avoir deux batteurs pour un groupe, un qui va faire les concerts et l'autre qui va faire plus les albums?
Le problème, c'est que c'est tous les musiciens qui ont plusieurs groupes. Ça devient toujours la guerre selon les périodes de l'année. Tout ce qui est février, mars, avril, tout ce qui est septembre, octobre, novembre, on tourne beaucoup. Et quand tu as plusieurs groupes, il y a forcément un moment où ça pose problème. Et du coup, le groupe va chercher un musicien de session. Donc, je pense que c'est assez courant. Après, sur des périodes comme ça, c'est peut-être moins courant. Et puis, sur ce volume de dates-là, c'est peut-être aussi moins courant. Mais dans la mesure là où ça dérange personne.
Bah oui, bien sûr. Et alors maintenant, j'aimerais. Alors toi, c'est avec l'école, avec le MAI, tu as rencontré le guitariste de Mirat. Tu t'es fait repérer avec une vidéo sur MySpace aussi. Et j'ai interviewé Damien Schmitt il y a quelques semaines et il me parlait de différents lieux pour faire des jams à Paris. Et mais qui étaient vraiment orientés plutôt jazz et avec notamment le Sunset Sunside, le Baiser Salé et le Caveau des Oubliettes.
Ouais.
Et est-ce que pour toi, il y a des lieux qui sont équivalents? Pour se faire repérer, mais plus pour être justement batteur dans un groupe de métal. Ou est-ce que peut-être tu conseilles ces mêmes endroits pour le métal aussi?
Bah, alors moi il y a deux trucs, c'est déjà si tu joues que du métal et que tu vas dans un endroit comme ça, tu vas te faire plier parce que les mecs ils sont ouverts à tous les styles et improviser sur du métal, c'est tellement écrit le métal et c'est tellement à la base pas un truc que tu improvises que c'est mort. Si tu as travaillé que ça, si tu as que la technique pour ça, je conseille pas ça, non. Donc ça c'est vraiment réservé, je pense, aux musiciens qui aiment, ouais, pour bosser de tout, qui sont capables d'improviser sur un petit peu de tout, quoi. Donc, des lieux, quand tu fais que du métal, non, je pense pas. Par contre, on a la chance d'avoir quand même tous ces réseaux sociaux et compagnie, ça, donc pareil, moi je vais dire ça, je l'ai jamais fait, mais faire des covers, faire un maximum de vidéos, ça coûte pas grand-chose, ça prend pas énormément de temps, et ça peut vous filer une visibilité assez folle, quoi, si vous vous démerdez bien. Ça, c'est bien. C'est bien. Après, ça va pas remplacer le fait de jouer avec d'autres gens. C'est pas ce que je dis, mais si, pour se faire connaître, c'est quand même pépère, quoi, maintenant. Pour ça.
Ouais, c'est quand même un excellent outil. Et d'ailleurs, moi, je suis entré en contact avec toi sur Facebook. Donc pour ça, Facebook, c'est quand même, enfin les réseaux sociaux, c'est.
Ah bah moi je suis ultra fan, hein, et tous ceux qui critiquent Facebook, y a pas de souci. C'est saturé de conneries, mais c'est quand même un outil qui est monstrueux pour garder le contact avec tous les gens que tu croises, pour promouvoir ton boulot. Moi, Facebook, c'est pas pour raconter ma vie, je serais pas musicien, j'en aurais peut-être même pas, ou alors ça serait juste pour insulter mes potes parce que ça me fait marrer. Mais je m'en sers vraiment juste pour mon boulot, quoi.
Ouais.
C'est vraiment bien. C'est un outil qui est vraiment cool.
D'accord. Et donc c'est ça que tu conseillerais pour quelqu'un qui voudrait rejoindre, pour un batteur qui veut rejoindre un groupe de métal qui existe déjà, qui tourne déjà, ce serait de se faire, de les contacter sur Facebook, j'imagine, de faire des drum covers de ce groupe, très probablement. Il y a autre chose que tu vois?
Alors, à savoir que moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait, donc je conseille un truc que moi, j'ai pas fait. Mais peut-être pas tout le monde aura la chance de croiser les gens que j'ai croisés et qui m'ont mis sur les plans que j'ai eu. Ouais, je pense que c'est un bon début. Enfin, t'es obligé au début d'être visible sur le net, sinon clairement, t'existes pas, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Après, faut savoir ce que tu veux aussi. Est-ce que tu veux jouer dans un groupe pour t'amuser, où tout le monde s'amuse, c'est-à-dire que c'est pas du tout la priorité de tout le monde, ou est-ce que tu veux jouer dans un groupe où c'est vraiment la priorité de tous les musiciens de ce groupe-là, et c'est de monter, c'est de faire quelque chose pour éventuellement en vivre un jour. Ça va pas être les mêmes conditions d'entrée, ça va pas te demander les mêmes choses à toi en tant que batteur, en tant que musicien. Faut déjà savoir ça. Après, les gros groupes en France ou ailleurs, quand il y a un musicien qui va partir pour X raisons, enfin, en général, le mot se passe entre nous, et c'est quasi tout sur recommandation, quoi. C'est
Ouais.
moi, chaque fois on me demande un plan et que je suis pas là, que je peux pas le faire, que je peux pas le faire pour X raisons, la question qui vient tout le temps après, c'est, bah, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait le faire, quoi? Et moi, je balance des noms. Et ces noms-là, je les balance, ou parce que je connais les batteurs, parce que je les connais assez, et je sais qu'ils sont sérieux, qu'ils vont faire le taf, où j'ai vu un batteur qui était monstrueux sur le net, et du coup je peux dire, bah lui, il a l'air d'envoyer dans le style, donc c'est forcément, c'est via le net, de toute façon, tout se passera là.
D'accord. Et c'est quels sont les batteurs justement dont t'es proche et que tu conseilles souvent quand tu peux pas? Il y en a qui sont que tu, des noms que tu ressors toujours?
Bah, y en a que je ressors pas trop parce que je sais qu'ils sont déjà hyper pris. Et après, c'est juste que je vais viser. Si tu veux un batteur qui groove bien et qui joue à mort en place et tout ça, qui a un super son, bah, je vais envoyer Florent Marcadet de Clone sans souci. Si tu veux un batteur qui blast et qui va à fond, je vais sortir un Kevin Follet. Bah, forcément, ça tombe en premier, ça va tomber sur les potes, sur les gars que je connais vraiment. Mais après, ça m'est déjà arrivé, ouais, de balancer des noms que j'avais retenus parce qu'il y a un petit batteur là qui est en train de monter, ça défonce, qui fait, y a pas de souci. Moi, je suis passé par là où on m'a aidé et on m'a mis sur des plans, quoi. Donc, je le fais volontiers, quoi.
D'accord. Ok, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Quelque chose, une question que tu aurais aimé que je te pose peut-être?
Comme ça, je ne sais pas. Enfin, je peux raconter ma vie pendant.
Oui.
Non, 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 comme ça, je ne sais pas. Bah, après, en tout cas, ceux qui écouteront ça, s'ils ont des questions, ils peuvent venir me voir. Il n'y a pas de souci. Je prends toujours du temps pour répondre aux gens, que ce soit la technique ou sur comment ça peut se passer quand tu veux faire ce que je fais.
Ouais, t'as été très réactif sur Facebook. Et alors juste, tu disais que tu parles de technique. Est-ce que tu donnes encore des cours aujourd'hui?
Non, j'en donne pas. Il y a de temps en temps, vraiment pour les batteurs qui veulent prendre une journée de cours complète, je le fais parce que pas parce que j'ai toujours une journée où je peux être libre et je condense un maximum les infos en une journée, mais des cours particuliers, je pourrais pas du tout. Et puis en proposant ce truc à la journée, c'est que je m'adresse déjà, bah, toujours pareil, à des batteurs qui en veulent vraiment, qui sont capables de prendre 7 heures, 6 heures ou 7 heures de batterie dans la gueule. Donc, c'est déjà des motivés, mais non, je donne plus de cours depuis des années.
D'accord. Ok. Bah écoute, pour ceux qui écoutent ce podcast, je mettrai dans les dans les sur mon blog, je mettrai les différentes références, les vidéos dont on a parlé de Kadinja, les sites de tes groupes et ton Facebook aussi, ton Facebook de musicien pour ceux qui voudront te contacter. Et bah merci beaucoup pour ce partage. Et je te dis à bientôt.
Ok, à plus. Bye bye.
À plus. Ciao ciao.